Franchement, plantez le décor avec moi. Il est, allez, quoi, 3 heures du matin.
Le fameux grand quart de nuit, toujours le pire moment.
C'est ça. Sur le sol de l'usine, l'atmosphère est un peu irréelle. Tout baigne dans ce bleu profond.
Ouais, ce bleu très institutionnel, un peu comme les couleurs d'Eltia d'ailleurs, le bleu de la fiabilité où tout ronronne.
Exactement. Le bourdonnement rythmé des lignes automatisées, limite hypnotique. Et là, d'un coup, le silence absolu.
À la pire angoisse du technicien de maintenance.
Le bourdonnement s'arrête. Et dans la pénombre de l'atelier, t'as plus qu'une seule chose qui attire l'œil.
Le voyant.
Ouais, la balise de défaut sur la ligne principale. Ce fameux orange d'alerte très vif qui se met à clignoter frénétiquement.
Et là, bah, la pression monte instantanément, quoi.
Bah, tu m'étonnes. Chaque minute où cette lumière orange clignote, ce sont des milliers d'euros de pertes.
Des retards, des livraisons, le chef d'atelier qui commence à paniquer.
Et surtout, une machine qui refuse obstinément de dire où est la malle. Et c'est justement là-dessus qu'on va se pencher aujourd'hui pour notre audience.
Sur la résolution de cette crise, ouais.
Voilà, on plonge dans la méthodologie qui permet de sauver la situation en s'appuyant sur le programme de la formation Automate Siemens S7 Maintenance de chez Altia Formation.
C'est un super document de base parce que ça va bien au-delà d'un simple catalogue de cours.
Carrément. Le but, c'est pas de lire un sommaire, mais de comprendre comment on forge l'esprit de déduction du technicien.
Comment on lui apprend à dialoguer avec le système nerveux central de l'usine, en fait?
Et d'ailleurs, tu parles de système nerveux central, mais c'est exactement ça.
Ah bah, l'expression est d'une précision chirurgicale, surtout quand on parle des automates Siemens S7, genre les séries 300 à 400.
C'est pas juste des gros interrupteurs, quoi.
Pas du tout. Ce sont des calculateurs industriels ultra robustes. C'est fait pour tourner des années sans jamais s'arrêter.
Ouais, c'est du solide. Mais du coup, face à un truc aussi complexe, j'imagine que le plus dur, c'est pas de changer la pièce cassée.
Oh non, dévisser un capteur, tout le monde sait le faire. La vraie épreuve, c'est le diagnostic.
Trouver l'aiguille dans la botte de foin.
Exactement. Localiser l'origine du blocage au milieu de milliers de capteurs, de kilomètres de code. Et c'est là qu'intervient l'outil de base de la formation, le logiciel Simatic Manager.
En lisant les sources, je me disais que ce Simatic Manager, c'est un peu comme le scanner IRM d'un hôpital.
C'est une super comparaison. Ou la valise de diagnostic d'un garagiste moderne.
Ouais, voilà. Parce que sans ce logiciel, le technicien devant l'armoire électrique, il voit quoi?
Bah, il voit des boîtiers en plastique gris et des kilomètres de fil.
C'est ça. Alors qu'avec le PC branché dessus, bim, tu vois les flux d'informations en direct.
En temps réel, ouais. Mais attention, l'automate, aujourd'hui, c'est plus un élément isolé dans son coin.
Ah oui, j'ai vu ça dans les prérequis de la doc. On parle tout de suite de réseau de terrain. Profibus, Profinet.
C'est incontournable maintenant.
Mais attends, pourquoi un technicien de maintenance électromécanique doit soudainement se transformer en administrateur réseau?
Bah parce que l'architecture des usines, elle a radicalement changé ces 20 dernières années.
C'est-à-dire?
Avant, chaque capteur de la machine, il avait son propre câble physique qui allait jusqu'à l'armoire centrale.
L'enfer du câblage, quoi.
Un cauchemar total. Aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle de la périphérie déportée.
Ok, donc on rapproche l'intelligence de la mécanique.
Voilà, t'as un petit boîtier, genre un Siemens CT200, qui gère tous les capteurs d'une zone précise. Et ce boîtier, il parle au cerveau central juste avec un câble réseau Ethernet, le Profinet.
D'accord, mais du coup, s'il y a un souci sur ce câble?
Bah, la machine s'arrête. Et le technicien, il doit comprendre que la panne, c'est pas forcément un truc mécanique ou électrique classique. Ça peut juste être le module déporté qui a perdu son adresse IP.
Incroyable. Donc l'investigation réseau, c'est la base. Mais il y a un truc qui m'a fait tiquer en lisant le programme. Côté logiciel.
Vas-y, dis-moi.
On parle d'usine ultra moderne, de réseau à la microseconde, et la formation insiste lourdement sur l'écriture en langage contact.
Ah, le fameux ladder, l'échelle.
Ouais, l'ADER, on est d'accord que ça simule visuellement des relais électromécaniques des années 70, hein.
Tout à fait.
Mais c'est hyper anachronique. Il n'y a pas des langages plus modernes, genre textuel, du SCL ou du C++ pour gérer cette complexité?
C'est un paradoxe qui rend fou les informaticiens qui découvrent l'industrie. C'est vrai que le SCL, c'est génial pour trier des bases de données.
Ou gérer des recettes de production complexes.
Exactement. Mais faut pas oublier le contexte de notre technicien.
À 3 heures du matin?
Voilà, à 3 heures du matin, sous une pression monumentale, le gars, il n'a pas le temps de lire intellectuellement des boucles if-then-else imbriquées sur 100 lignes de code.
Il lui faut un truc immédiat.
Une réponse binaire.
Et le langage contact, c'est l'outil de diagnostic visuel parfait.
Comment ça marche, visuellement, pour ceux qui n'ont jamais vu?
L'automate, il lit les entrées, il exécute le programme, il met à jour les sorties en boucle, toutes les quelques millisecondes. Le ladder, il te dessine ça comme un circuit électrique virtuel sur l'écran.
Donc on voit le courant passer.
C'est l'idée. Si un capteur est activé, le contact virtuel se ferme à l'écran et la ligne devient verte. Le flux passe.
Et si la porte de sécurité n'est pas bien fermée?
Le contact reste ouvert, la ligne reste grise. En un coup d'œil, sans lire de code, le technicien voit exactement où le cheminement logique est coupé.
C'est hyper intuitif, en fait.
C'est de l'efficacité cognitive absolue. Ça épouse le modèle mental de l'électrotechnicien. Je suis bluffé. Je pensais vraiment que c'était un vieux truc dépassé. Mais bon, savoir lire ce langage, ça suffit pas quand t'as un programme de 100 000 lignes.
Oh que non. Faut trouver la bonne ligne et vite.
Justement, Altia met en avant des outils spécifiques pour traquer la panne. Et on parle beaucoup des références croisées. C'est quoi un gros contrôle plus F?
C'est beaucoup plus puissant qu'une simple recherche de texte. T'imagines une électrovanne dans la machine, c'est pas juste un mot, c'est une adresse mémoire physique. Disons la sortie A4.0.
D'accord.
Et le code, il est éclaté dans plein de blocs différents. Des blocs d'organisation, des fonctions, des blocs de données.
Un vrai labyrinthe.
Voilà. Et l'outil des références croisées, c'est une base de données relationnelle instantanée.
Donc je clique sur ma vanne qui marche pas.
Tu cliques sur A.0 et bim. Le logiciel te sort toute l'arborescence. Il te dit quel bloc décide de l'activer, qu'il lit son état, où sont rangés ses paramètres.
C'est le fil d'Ariane numérique, quoi.
Exactement. Tu pars du symptôme, la vanne est fermée, et tu remontes direct à la cause initiale, sans te taper toute la lecture du code.
Un gain de temps massif. Il y a un autre outil qui est mentionné dans le diagnostic, c'est la comparaison hors ligne, en ligne.
Ah, ça c'est crucial.
Mais ça m'a surpris. On compare le projet sur le PC du technicien avec ce qui tourne dans la machine. Mais en théorie, c'est censé être pareil, non?
En théorie, ouais, dans un monde parfait. Mais dans la réalité brute du terrain...
Laisse-moi deviner, il y a des surprises.
Souvent. Imagine, le quart de nuit précédent, un autre gars a dû bricoler une solution temporaire.
Pour pallier un capteur mort, histoire que la ligne continue de tourner.
C'est ça. On appelle ça un shunt ou un forçage logiciel. Sauf que, bah, dans le rush, il a oublié de documenter ou de sauvegarder sur le serveur central.
L'horreur.
Et deux semaines plus tard, la machine fait n'importe quoi. Si le nouveau technicien lance cette comparaison hors ligne, en ligne, Symantec Manager, va analyser toutes les sommes de contrôle.
Et il va voir la différence.
Il va te surligner en rouge sang le bloc de code qui diffère. Le technicien découvre la modification fantôme tout de suite.
C'est hyper sécurisant avant même de commencer à chercher la panne.
C'est vital, tu veux être sûr que tu analyses le bon programme.
Du coup, en parlant de faire des modifs pour dépanner, la doc parle de la table de forçage permanent.
Oui, l'outil ultime.
Mais attends, forcer une variable, c'est dire au cerveau de la machine d'ignorer la réalité, non?
C'est exactement ça. Tu lui dis « Ok, le capteur te dit que la barrière est ouverte, mais je te force à croire qu'elle est fermée. »
Mais c'est incroyablement dangereux. Une faute de frappe et un robot peut écraser quelqu'un ou défoncer la ligne.
C'est l'intervention la plus risquée en automatisme. T'as un pouvoir absolu sur la mécanique. C'est indispensable pour tester des trucs, mais le potentiel de destruction est dingue.
Alors, comment on apprend ça sans casser l'usine?
C'est toute la subtilité pédagogique de cette formation Altia. Ils utilisent exclusivement un simulateur d'automate couplé à une simulation de process.
Un bac à sable virtuel, quoi. On reste dans le bleu rassurant de la simulation.
Exactement. Tu t'entraînes pas sur une presse de 100 tonnes en vrai. Sur le simulateur, ils créent leur table de forçage, ils se trompent d'adresse.
Et ils observent le crash virtuel.
Ouais, le jumeau numérique de la machine qui part en vrille. Et je te garantis que ça marque.
La pédagogie par l'erreur, il n'y a que ça de vrai.
Ça instille un respect profond de l'outil. Quand le stagiaire retourne dans la vraie usine, face au danger, l'orange qui clignote...
Il vérifie deux fois avant de valider son forçage.
C'est devenu un instinct de survie.
C'est hyper sain comme approche. Bon, on a beaucoup parlé du cerveau dans l'armoire, mais la machine interagit aussi avec les humains.
Les opérateurs, oui.
Et le programme a un gros module sur Wins et Flexi. C'est pour gérer les IHM, les écrans tactiles sur les machines.
Tout à fait.
Mais pour faire l'avocat du diable. Un écran, c'est juste de l'affichage. Si un cariste donne un coup de fourche dedans et il pète, la mécanique va bien. Le cerveau tourne toujours. Pourquoi en faire tout un plat pour la maintenance?
Alors techniquement, oui, l'automate des réfis va très bien. Mais si ton écran est mort, ta machine, elle est devenue complètement aveugle et muette.
L'opérateur peut plus rien faire.
Rien du tout. Impossible de lancer la recette de production, impossible de changer la vitesse.
Impossible d'acquitter un tout petit défaut.
Voilà. Et la machine se retrouve complètement paralysée.
Donc l'urgence, c'est pas de diagnostiquer le code, c'est de remplacer la dalle.
C'est de la logistique de survie. Le technicien court au magasin prendre un pupitre neuf.
Mais il est vide, le pupitre neuf.
Exactement. Et le but de la formation Wins et Flex, pour eux, c'est pas d'apprendre à dessiner des jolis boutons, c'est d'apprendre à aspirer l'ancien programme, si l'écran marche encore un peu.
Ou d'aller chercher la bonne sauvegarde sur le réseau.
et de l'injecter avec ses DEMS adresse IP dans le nouvel équipement. Si tu maîtrises ça, tu relances la prod en 20 minutes au lieu d'attendre l'automaticien du lendemain.
C'est vraiment la frontière entre le petit incident et l'arrêt de production majeur, quoi.
Absolument.
Il y a un dernier gros morceau technique qui m'a interpellé, c'est le safety, la sécurité machine.
Ah, les fameuses cartes jaunes.
Voilà. Le document dit qu'il faut apprendre à lire le programme de sécurité. Et là, pareil, je bloque un peu.
Pourquoi ?
L'idée d'une chaîne de sécurité, les gros arrêts d'urgence, c'est d'être un rempart intouchable, non ? Si un gars est pressé de redémarrer à 3h du mat, lui donner les clés de la sécurité, c'est pas jouer avec le feu, ça devrait être une boîte noire.
C'est une réaction très courante, mais ça vient d'une méconnaissance des systèmes modernes.
Éclaire-moi.
Aujourd'hui, la sécurité, c'est plus juste un gros relais électromécanique. C'est un vrai processeur de sécurité intégré, souvent jaune dans l'armoire.
Il a son propre programme, ouais.
Voilà, il tourne de manière redondante et hyper sécurisée. Et le but de la formation, attention, c'est absolument pas d'apprendre aux techniciens à le modifier.
Ouf, tu me rassures.
D'ailleurs, en vrai, c'est verrouillé par des mots de passe costauds de conception. Le but, c'est d'apprendre à le lire.
Juste le lire pour diagnostiquer.
Exactement. Parce que les pannes les plus vicieuses, souvent, c'est pas des pannes. C'est la machine qui se met en sécurité de manière légitime, mais à cause d'un truc microscopique.
Tu as un exemple ?
Prends un bouton d'arrêt d'urgence. C'est du double canal. T'as deux contacts internes.
D'accord.
Avec l'usure, quand l'opérateur appuie, il y a un contact qui s'ouvre quelques millisecondes après l'autre.
C'est invisible à l'œil nu.
Mais le processeur de sécurité, lui, le voit. Il appelle ça une erreur de discordance temporelle. Et bam, il verrouille toute la machine.
Et le technicien normal, il fait quoi alors ?
Il va checker les fusibles, chercher une panne mécanique, tester les câbles. Il perd des heures.
Alors que s'il sait lire le code safety ?
Il ouvre le bloc jaune dans Symatic Manager. Il voit l'erreur de discordance sur l'entrée exacte de ce bouton-là. Il change le bouton. Terminé.
Savoir faire la différence entre une vraie panne et une mise en sécurité, c'est ouf. Ça demande une vision globale incroyable du système.
C'est le cœur du métier aujourd'hui.
Réseau Profinet, Logic Ladder, forçage virtuel, pupitre, discordance safety. La densité d'informations de ce programme est monumentale.
Ah, c'est du très haut niveau.
Et quand on regarde les modalités chez Alteia, c'est ça qui est dingue. Ils font avaler tout ça en 4 à 5 jours.
Ouais, c'est très court.
En présentiel à IWI ou en distanciel. Mais surtout avec des groupes minuscules, 1 à 4 stagiaires maximum.
C'est le secret de la réussite pour ce genre de compétences.
Bah oui, on est loin de l'amphi de fac là. C'est de l'entraînement de force spéciale.
Mais c'est indispensable. Tu peux pas justifier économiquement d'apprendre à la maintenance complexe sur des slides PowerPoint.
Ça, c'est sûr.
C'est un sport de contact. Avec 3 ou 4 personnes, chaque stagiaire a les mains sur sa propre console. Ils manipulent vraiment les racks Siemens, les modules T200.
Ils peuvent pas se cacher au fond de la classe s'ils n'ont pas compris un truc.
Impossible. Le formateur leur débranche un câble réseau pour de vrai et il les regarde transpirer sur les références croisées pour trouver le problème.
Une vraie simulation de crise. D'où l'évaluation très stricte des prérequis à l'entrée.
Ah oui, on n'en voit pas un débutant total là-dedans. Faut des bonnes bases en électrotechnique et logique.
Le but des 5 jours, c'est pas d'apprendre ce qu'est un courant électrique, c'est de maîtriser l'investigation S7.
Exactement. Et le QCM de sortie, il vérifie que le gars a une vraie méthodologie qu'il pourra appliquer dès son prochain quart de nuit.
Eh ben, je suis admiratif. Quand on prend un peu de recul sur tout ça, on se rend compte qu'on donne un vrai scalpel numérique à des techniciens pour opérer le cerveau d'une usine.
C'est une belle image.
Et ça m'amène à une réflexion, un truc un peu vertigineux. Aujourd'hui, on nous bassine partout avec l'intelligence artificielle.
Ah, la fameuse mince prédictive algorithmique.
Ouais, partout dans les presses spécialisées, on te dit que l'IA va anticiper chaque panne avant qu'elle arrive. Du coup, on pourrait se dire que ce savoir-faire humain clinique, il va devenir obsolète.
C'est le grand fantasme industriel du moment.
Mais en écoutant cette analyse des diagnostics, la discordance de millisecondes, le shunt non documenté, le pupitre écrasé par un Fenwick.
L'IA, elle fait quoi là-dedans ?
Bah, elle fait rien. L'IA est géniale pour retirer l'usure d'un roulement sur 6 mois d'analyse vibratoire.
Complètement.
Mais face au chaos d'un câble arraché par accident ou une modif sauvage faite la veille, l'algorithme y s'effondre.
C'est là que l'humain reste le rempart ultime. Le technicien y combine son intuition mécanique avec l'analyse froide du processeur Siemens.
C'est le seul pont entre le code et la ferraille.
Et une fois que cette base est acquise, le technicien, il répare plus seulement la machine. Il commence à l'optimiser.
Ce qui ouvre la voie vers la suite, la formation S7 Expert, dont parle aussi le document.
C'est la suite logique, ouais.
En tout cas, la prochaine fois que j'imaginerai cette ligne de production plongée dans la nuit, avec son ambiance bleue rompue par ce gyrophare orange d'alerte.
Tu verras plus juste un problème financier.
Non, je verrai une arborescence logique, des références croisées, des états booléens qui n'attendent qu'à être décryptés par un expert.
Un diagnostic méthodique, prêt à réanimer l'installation.
C'est fascinant. Merci d'avoir exploré tout ça avec nous aujourd'hui, et merci à ceux qui nous écoutent d'avoir suivi cette plongée au cœur du système nerveux industriel.
À la prochaine!